Mon âme élève le Seigneur. Exulte, car il a fait des merveilles dans ta vie. Il t'a sauvé de la boue et t'a racheté.
Dans le studio de Christ Radio, je m'excuse pour ces 4 minutes de retard, mais j'étais un petit peu sous l'eau aussi parce qu'on a un petit problème avec notre groupe. Et donc avec l'orage qui est là et qui saisit, mais on se bat, il n'y a pas de souci et la vie avance. Donc nous sommes dans toujours notre épître aux Galates. On a vu ce matin, on a essayé de faire un petit résumé quand même de l'épître aux Galates pour que tous les auditeurs de 100.3 puissent vraiment avoir le goût. Vous voyez, il faut avoir le goût de la lecture de la Bible. Saintes Écritures, il faut lire les Saintes Écritures. On ne lit pas la parole de Dieu. Hein. On ne lit pas la parole de Dieu. On lit les Saintes Écritures, on lit la Bible. Il faut avoir le goût de la Bible, le goût de Saintes Écritures. Et c'est vrai que l'Épître aux Galates, pour ça, quand même, donne. Ceux d'entre vous qui sont fidèles depuis, qui écoutent un peu cette émission, et qui veulent entrer dans l'Épître aux Galates, je suis sûr qu'aujourd'hui, si on vous dit qu'est-ce que c'est que l'Épître aux Galates, vous direz quelque chose. Alors qu'il y a, 15 jours, il y a 3 semaines, il y a 3 ans, il y a 3 mois, il y a 3... vous n'auriez rien dit sur l'Épître aux Galates. Et c'est pour ça que c'est important de se former. La formation est très bonne, c'est très intéressant. Et surtout l'Épître aux Galates est vraiment très très intéressante. Moi, comme je vous ai dit plusieurs fois, je connaissais surtout le chapitre 1 et le chapitre 2. Mais après le chapitre 3, qui est un peu compliqué, même le chapitre 4, mais c'est intéressant. Et c'est important qu'on puisse entrer dans ces livres, dans ces documents, qu'on puisse les lire, qu'on puisse essayer de mieux comprendre. Et comprendre surtout, je crois, une chose importante, et je crois que pour ça, les vidéos, enfin ceux qui ont écouté les audios plutôt de Amadeus Jocelyn, ça aide beaucoup pour essayer de comprendre le problème qu'il y a entre... Alors Amadeus Jocelyn, c'est plutôt les gens qui frelatent l'évangile aujourd'hui par rapport à la vérité de l'évangile qui se trouve dans l'Église catholique, mais c'est aussi par rapport à l'histoire de l'Église. Et il faut que nous, sur la 100.3, nous puissions faire comprendre aux gens que arrêtez de mentir en disant que l'Église catholique est née avec Constantin. C'est du mensonge pur et simple. Et si quelqu'un n'est pas d'accord, qu'il vienne. Hein, je vous rappelle que la radio est ouverte. Vous avez un droit de réponse quand vous voulez, comme vous voulez. Apportez vos arguments et montrez-nous comment Constantin a paganisé l'Église catholique. Et nous, on va vous montrer comment l'Église catholique a christianisé Constantin. Parce que Constantin est devenu chrétien. Grâce à qui ? Grâce à l'Église catholique. Et 63 ans après lui, l'empereur, le deuxième empereur qui a suivi après Constantin, a interdit les cultes romains dans la ville de Rome. Et pourquoi pensez-vous qu'un empereur romain interdit les cultes romains ? Parce que justement, il est devenu chrétien. Donc il faut au bout d'un moment, vous voyez, qu'on puisse mettre... Alors, c'est intéressant parce que l'Épître aux Galates nous montre ce que c'est que la vérité. C'est pour ça que saint Paul nous dit qu'il est allé voir Pierre. Et quand il a vu Pierre, il a vu Pierre en face. Et à Pierre, il lui a dit ce qu'il pensait. Et il lui a dit que comme tu te comportes mal là, moi je vais te reprendre parce que ce n'est pas normal que tu fasses ce que tu fais. Et au nom de la vérité de l'évangile, Paul va reprendre Pierre. Et la vérité de l'évangile, c'est la chose la plus importante qui soit. Pas la vérité de l'évangile écrit, celui que tu comprends comme tu peux avec ta petite tête, du véritable évangile qui est l'évangile de Jésus-Christ, qui est la parole de Dieu qui est donnée au monde aujourd'hui. Et c'est pour ça que je vous rappelle sans arrêt sur la 100.3, et je crois qu'aujourd'hui c'est nécessaire. Alors, tant pis pour ceux d'entre vous qui sont déjà convaincus, mais c'est important de comprendre que la seule Église qui a une foi qui repose sur la parole de Dieu, c'est nous les catholiques. Et je vous mets au défi, c'est pas la guerre, mais je vous mets au défi de trouver un pasteur qui puisse vous dire autre chose que ce que je vous dis là. La foi de l'Église catholique repose sur la parole de Dieu. La foi d'un protestant repose sur sa compréhension de la Bible, même pas de la Bible, la Biblette, puisqu'il y a une Bible diminuée. C'est pour ça que, revenir, on voit comment Paul, à son époque, avait un problème avec la vérité. Et pour trancher cette histoire de vérité, il a écrit cet épître aux Galates. Il n'y a pas deux évangiles, il y a un seul évangile. C'est l'évangile de Jésus-Christ. C'est parce que je suis pasteur que j'enseigne que ça veut dire que j'ai la vérité. Et on l'a vu, puisque dans Galates chapitre 1, verset 8, il dit « Même si moi je viens aujourd'hui vous annoncer un évangile autre que celui qui vous a été annoncé, que je sois anathème, que je sois maudit, que je sois excommunié, il y a un seul évangile. Et le seul véritable évangile, c'est l'évangile de Jésus-Christ. En dehors de ça, il n'y a pas d'autre évangile. » Et si on vous enseigne autre chose que l'évangile de Jésus-Christ, mais posez-vous des questions, remettez-vous en cause, acceptez la vérité. La vérité ne va pas nous détruire, au contraire, la vérité va nous aider. Jean 8, 32, la vérité vous rendra libre. Et c'est important que nous puissions aimer la vérité. Alors on a vu ce matin, vous voyez, comment la vérité de la croix de Jésus-Christ est la seule vérité qui va assumer le scandale de la mort, le scandale de la souffrance. Alors je ne vais pas revenir dessus, si vous voulez, vous reprendrez l'émission, vous la piquez, vous faites ce que vous voulez, mais parce qu'il faut quand même qu'on avance. Et donc on voit Saint Paul qui va dire, non, pourquoi êtes-vous revenu en arrière? Pourquoi alors avez-vous abandonné la vérité? Je parle ici aux anciens catholiques qui m'écoutent là. Vous qui dites souvent au quartier que j'étais catholique, j'étais servant de messe, j'étais ci, j'étais ça. Mais parlez, parlez. On vous donne la possibilité de parler. Vous savez que l'antenne est ouverte tous les dimanches soirs à 19h. Et à dimanche soir à 19h, ben, prends ton téléphone. Prends, ben oui, quelques francs parce qu'il faut quand même téléphoner. Après, tu te débrouilles à avoir ton crédit, comment tu peux l'avoir. Et puis, dis-nous. Et si toi-même tu es dans la vérité, éclaire-nous pour que nous aussi nous puissions être dans ta vérité à toi. Parce que moi-même qui suis ici, là, qui parle fort au micro, là, je cherche la vérité. Si je ne cherchais pas la vérité, d'ailleurs je ne serais pas ici. Et si tu arrives à me prouver que la vérité n'est pas chez moi, mais je vais venir chez toi. Je cherche la vérité et je veux la vérité. Mais j'espère que toi qui m'écoutes, tu cherches aussi la vérité. Parce que quand un catholique dit qu'il adorait la Vierge Marie, il ne cherche pas la vérité, c'est un menteur, que les choses soient claires. Je vous mets au défi de trouver un seul catholique qui a quitté l'église catholique et qui vous dise qu'il adorait la Vierge Marie. Je vous mets au défi, ou bien à ce moment-là, il faut l'amener à Jameau, c'est un malade, puisque l'Église catholique n'a jamais enseigné des choses pareilles. Alors, c'est bien qu'on puisse discuter sur Paul et sur son épître aux Galates pour savoir s'il y a une vérité quelque part, il n'y a pas de souci, c'est bien à l'époque de Paul. Mais ce n'est pas l'époque de Paul, maintenant c'est à ton époque, à toi mon frère. Et c'est toi aujourd'hui qui dois être capable de trancher, de savoir est-ce qu'il y a une vérité quelque part, et s'il y a une vérité, quelle est cette vérité? La vérité pour nous tous, c'est clair, c'est la parole de Dieu, c'est Jean 17, 17. Ta parole est vérité. Et la parole de Dieu qui est la vérité, c'est ça qui dirige notre vie. Et c'est pour ça que notre foi repose sur la parole de Dieu et non pas sur la Bible. Encore moins sur les compréhensions bizarres de tous ces gens qui lisent la Bible avec leur niveau intellectuel et qui vous disent n'importe quoi, comme on a vu les dangers des Saintes Écritures. Donc, vrai, les gars, n'ayons pas peur de la vérité. Moi, j'ai pas peur de la vérité, hein. Je vous assure, j'ai pas peur. Venez me montrer votre vérité. Si votre vérité est plus grande que la mienne, je vais adhérer, je vais partir chez vous, non? Je n'ai pas peur. La vérité ne fait pas peur. La vérité nous rend libres, de bonheur. Donc, c'est important, vous voyez, au niveau de l'épître aux Galates, pour voir le problème qui existe, de voir un petit peu quels sont les problèmes que nous, on peut avoir aujourd'hui. Et par rapport, je crois, au problème qu'on a avec les nouvelles églises, les faux prophètes qui sont dehors, et toutes ces églises qui naissent comme des champignons partout, je crois que c'est important qu'on puisse mettre un petit holà, qu'on puisse s'asseoir, qu'on puisse réfléchir, et puis essayer de voir, est-ce qu'il y a une vérité quelque part, et où est cette vérité, et là où elle est, ben, qu'on puisse s'y engager, c'est tout. Alors, il est dit donc, verset 12, « Je me suis bien fait l'un de vous, frères. Vous aussi, je vous en prie, soyez comme je suis. Vous m'avez toujours bien traité. » Alors il disait quelque part auparavant, « Ô Galates insensés, ô Galates, qui vous a ensorcelés, les Galates, vous aussi, comment vous êtes bêtes comme ça ?» C'est ça que ça veut dire, hein. Moi je traduis dans l'langage moderne d'aujourd'hui, c'est tout. Et après donc, on voit comment il devient quand même beaucoup plus clément. Il commence à essayer de voir, ben voilà, c'est vrai, quelque part, quand je suis venu chez vous, vous avez été gentil, hein. Je me suis bien fait l'un de vous, frère. Vous aussi, je vous en prie, soyez comme je suis. Galates chapitre 4, verset 12. Vous m'avez toujours bien traité. Au Galates insensé, maintenant, il montre le côté, c'est le côté affectif, quoi. C'est paternel, c'est maternel. C'est... Parce que même, vous voyez... un type comme moi, Père Hervé Marie, moi je gagne rien à prêcher ce que je prêche là. La seule chose qui est importante, c'est que je puisse prêcher la vérité. Et si quelqu'un arrive à me montrer que je ne prêche pas la vérité, je vais changer de vérité, c'est clair. Et la radio existe pourquoi? Pour essayer d'éclairer les gens, pour que nous puissions tous cheminer sur le chemin que Dieu a voulu pour nous. Alors maintenant, donner sa vie au Christ, c'est essentiel. Bon, je crois qu'on l'a vu, et même ce matin, c'était encore « Prends ta croix chaque jour, viens et suis-moi. » Oui, porte ta croix, sois chrétien, sois fidèle jusqu'au bout. n'aie pas peur de séparer de tous ceux qui sont des gens qui sont corrompus, qui sont prostitués. Alors prostituée dans le monde, pas forcément sexuellement, mais prostituée parce qu'il y a les gombos, il y a la prostitution avec les marabouts, il y a la prostitution avec tout ce qu'on peut imaginer, oui. Je me suis bien fait l'un de vous, frère. Vous aussi, je vous en prie, soyez comme je suis. Vous m'avez toujours bien traité. Et donc, c'est plus au Galate insensé. Il a son côté paternel, et comme je vous ai dit l'autre jour, c'est un côté qui est même maternel. On a l'impression que Paul devient une mère. Il peut être très dur dans son discours comme il peut être très doux. Alors, vous savez comment j'étais malade tout au début quand je vous ai évangélisé. Il semble que quand il arrivait là-bas en Galatie, il devait être un peu malade. Mon état de santé était pour vous une épreuve. Mais vous ne m'avez pas pour autant méprisé ou montré du dégoût. Au contraire. Vous m'avez reçu comme un ange de Dieu, comme le Christ Jésus. Oh, ça ne veut pas dire qu'il est le Christ Jésus, hein. Ça veut dire que vous m'avez reçu avec beaucoup d'amour fraternel. Vous m'avez reçu comme votre frère. Et donc on voit comment maintenant Saint Paul veut le rappeler quand même que même si du côté de la vérité vous avez des difficultés, sachez quand même que du côté de l'amitié on était quand même ensemble. Hein. Mais qu'est devenu ce bonheur parfait, car je ne mens pas. Vous vous seriez arraché les yeux pour me les donner. C'est très joli. Et malheureusement, ce sont des phrases de Paul qu'on ne connaît pas beaucoup dans l'Église catholique, ou dans l'Église en général même. Mais qu'est devenu ce bonheur parfait, car je ne mens pas. Vous vous seriez arraché les yeux pour me les donner. Il montre bien la charité très grande qui fait que vous seriez arraché vos yeux pour me les donner, mais c'est quand même très fort. Hein. Alors suis-je maintenant votre ennemi parce que je vous dis la vérité? Je ne sais pas, parmi ceux qui m'écoutent, là, je sais qu'il y a des gens qui sont gagnés à la cause du Père Ave Marie, il y a le fan club du Père Ave Marie, qui, tout ce que je dis, dit Amen, Alléluia, pas de souci, non. Mais il y a aussi un fan club qui n'est pas forcément gagné à la vérité. Et je voudrais vous poser la même question, moi. Suis-je maintenant votre ennemi parce que je vous dis la vérité? Est-ce que je suis votre ennemi parce que je vous dis qu'il y a 73 livres dans la Bible ou 66 livres? Et que tu en as marre d'entendre le Père Marie dire qu'il y a 73 livres dans la Bible ou 66 livres? Mais pourquoi tu en as marre, mon frère? Pose-toi la question. C'est facile de jeter l'opprobre sur le Père Marie. C'est facile de dire, mon père, tu insultes trop les gens, mais toi-même, là, tu en es où aujourd'hui? Pose-toi la question, mon frère. Et tu ne peux pas écouter la 100.3 tous les jours depuis si longtemps sans vouloir te remettre en cause par rapport à la vérité, si la vérité n'est pas là où tu es exactement aujourd'hui. Et c'est à toi de te remettre en cause, il faut mettre les choses au clair. C'est trop facile de jeter l'opprobre sur l'autre. Il y a une vérité. Moi, je fais que lire ce que Saint Paul dit. J'actualise un petit peu, c'est tout, j'essaie de mettre les choses au clair. Mais qu'est devenu ce bonheur parfait? Car je ne mens pas. Moi-même, je ne mens pas. Vous trouvez un mensonge dans mon discours. Et dites-moi quel est mon mensonge. Car je ne mens pas. Vous vous seriez arraché les yeux pour me les donner. Alors suis-je maintenant votre ennemi parce que je vous dis la vérité? Mais vous devriez, vous qui n'êtes pas catholique et qui m'écoutez, là, applaudissez-moi, pardon. Mais rendez grâce à Dieu d'avoir un type comme moi qui ose vous dire la vérité. Parce que vous pensez que c'est facile de dire la vérité comme je fais dans mon micro, moi. Moi aussi, j'aimerais facile être d'accord avec tout le monde et tout se passe bien et tout est bien. Mais c'est pas ça la vérité, mes amis. Et nous devons accepter la vérité dans notre vie. Je me souviens un jour, je descendais de ma voiture pour aller aux douanes. C'était à Bastos. Deux femmes en face de moi qui me disent « Voici le prêtre qui dénigre les protestants. » J'ai jamais dénigré les protestants. Et si tu es protestant, il n'y a pas de souci, sois protestant et proteste autant que tu veux. Mais je dois te dire, mon frère protestant, que la vérité, ce n'est pas forcément ce qui est dans ton église. La Bible a-t-elle 66 livres ou 73 livres? L'Eucharistie, c'est l'Eucharistie ou c'est pas l'Eucharistie? Alors je sais que ça vous gêne, ça vous dérange. Eh bien ce soir, vous serez dérangé sérieusement. Parce que je vais m'occuper de vous, parce qu'au bout d'un moment, moi aussi j'en ai marre. Et je ne vais pas passer mon temps à parler comme ça tous les jours, hein, et à faire que tout le monde soit content. On n'est pas content. Nous sommes des gens qui cherchons à suivre Jésus-Christ d'une manière radicale et totale. Est-ce que c'est ton cas, mon frère? Et si tu reconnais que quelque part, il y a quelque chose qui ne va pas dans l'enseignement qu'on t'a donné, mais remets-toi en cause. Au bout d'un moment, c'est fatigant quand même. Je deviens doux et calme. N'est-ce pas que vous auriez été prêt à arracher vos yeux pour me les donner? Le côté paternel et maternel de Paul. Mais en même temps, quelque part, vous voyez, il faut les deux, il faut la chicotte et la carotte. Et c'est pour ça que dans Galates chapitre 3, il dit « Ô Galates insensés, ô Galates ensorcelés ». Et maintenant, il dit que vous les Galates, vous étiez prêts à m'aider. Mais maintenant, est-ce que je peux devenir votre ennemi parce que je vous dis la vérité? Mais comprenez, vous tous qui m'écoutez là-même, est-ce que vous êtes capable de dire la vérité à tous ceux qui sont autour de vous? Est-ce que vous êtes capable de dire la vérité? Et reconnaissez que dire la vérité, ce n'est pas facile. Mais en même temps, dire la vérité, c'est le bonheur, mon frère. Parce qu'en disant la vérité, tu sais que tu fais ce que Dieu veut. Et en disant la vérité, tu ne peux que t'épanouir et être heureux. Et tu mets la paix dans ton cœur. Et tous ceux d'entre vous qui ne sont pas en paix avec la vérité, vous ne serez jamais en paix. C'est impossible. Et c'est pour ça qu'au bout d'un moment, vous voyez, il y a des dangers à écouter la Bible. Les dangers de la Bible, le premier danger de la Bible, c'est les fausses interprétations, il y a tout ce qui vous, oui bien sûr. Mais le premier danger de la Bible, c'est de faire que la Bible soit pour toi réellement la parole de Dieu et que cette parole de Dieu accepte de te transformer au plus intime de ton cœur et de ta vie. Et acceptes-tu d'être transformé dans ton cœur et dans ta vie? Il y a la culture, il y a la tradition, il y a mes parents, il y a le monde dans lequel je vis, il y a la corruption, il y a toutes ces choses. Mais toi-même, qu'est-ce que tu cherches et qu'est-ce que tu veux? Et c'est toi qui vas choisir, hein? Personne ne va choisir pour toi. Moi, j'ai choisi de dire la vérité, moi, j'ai pas peur, hein? Je crois que vous me connaissez, vous tous, là, avec ma grande gueule, dites tout ce que vous voulez, il n'y a pas de souci. Moi, j'accepte, et c'est vrai, je n'ai pas que des qualités, j'ai aussi des défauts, je le reconnais. Mais en tout cas, tout ce que j'essaye de faire, j'essaie de le faire pour essayer d'aider le monde à devenir meilleur. Et je le fais pour essayer de faire que chacun d'entre nous, nous puissions comprendre que cette parole de Dieu est quelque chose d'important et qu'on ne peut pas frelater, diminuer la parole de Dieu. Et si je parle à quelqu'un, tant mieux. Et si l'Esprit Saint peut te convaincre de suivre la vérité, tant mieux. Mais si toi-même, mon frère, aujourd'hui, tu refuses la vérité, alors à ce moment-là, je ne sais plus ce qu'on peut faire pour toi. Quelqu'un qui refuse la vérité, c'est quelqu'un qui s'approche du blasphème contre l'Esprit Saint. Marc chapitre 3, verset 29. Le blasphème contre l'Esprit Saint, c'est un blasphème, c'est un péché éternel, qu'il n'y a pas de rémission. Pourquoi? Parce que l'Esprit Saint conduit à la vérité tout entière. Et si tu refuses la vérité dans ton cœur et dans ta vie aujourd'hui, c'est grave, c'est grave. Moi, je n'ai jamais refusé la vérité dans ma vie. Jamais. Je témoigne, après 59 ans d'existence, que je n'ai jamais refusé la vérité dans ma vie. Et j'ai toujours cherché la vérité. Et si quelqu'un me trouve une vérité autre que celle que j'enseigne, je vous assure, je vais vous suivre, parce que j'aime la vérité. Et il faut aimer la vérité. Et nous tous, nous devons aimer la vérité. Et je crois quelque part que l'Épître aux Galates nous rappelle ça. Donc, alors suis-je maintenant devenu votre ennemi parce que je vous dis la vérité? Là-bas, on est plein de zèle pour vous, mais pas dans le bon sens. Alors, comment on peut interpréter ce passage, le Galates 4, 17? Là-bas, on est plein de zèle pour vous, mais pas dans le bon sens. Il y a plein d'églises dans lesquelles on est plein de zèle. Surtout les églises qui sont petites. Quand on n'est pas très nombreux, on est zélé, on se connaît, on est ensemble. Mais est-ce que c'est ça qui fait la vérité de l'Évangile? La vérité de l'Évangile vient de l'Église. Galates 2, 2, de peur d'avoir couru en vain. Donc attention au zèle. Il y a un zèle qui est bon, il y a un zèle qui n'est pas bon. Ces gens-là veulent vous prendre à part pour que vous soyez plein de zèle pour eux. Comme ce serait bon d'être toujours plein de zèle et dans le bon sens, et pas seulement quand je suis près de vous. Moi j'aimerais passer dans toutes les familles et toutes les maisons, où dans les familles vous êtes divisés à cause des saintes écritures, de votre compréhension. Et j'aimerais discuter avec les frères, les sœurs, tous ceux qui sont là, et qui ont leur compréhension bizarre des Saintes Écritures, pour qu'on puisse mettre la paix. Oui, mes petits enfants, je souffre pour vous les douleurs d'une mère, jusqu'à ce que le Christ ait pris forme en vous. On avait vu ça ce matin. Et la mère qui souffre, c'était Marie au pied de la croix, ce qu'on avait vu, non? Combien je voudrais être auprès de vous en ce moment et vous parler de vive voix, car je ne sais comment faire avec vous. Et maintenant, on continue donc avec le passage de Agar. Agar la servante et Sarah la femme libre. Alors forcément, Agar et Sarah, ça nous rappelle Abraham. Abraham, c'est Genèse chapitre 12. Et dans Abraham chapitre 12, on voit comment Dieu va parler à Abraham et il va faire alliance avec Abraham. Et Abraham va avoir foi, il va croire. Dites-moi, vous qui voulez vous soumettre à la loi, l'avez-vous entendu? Je vous rappelle que chez les Juifs, il y a 614 lois qu'on devait respecter. Il est écrit qu'Abraham eut deux fils. L'un né de son esclave, l'autre de celle qui était libre. Le premier fils, celui de l'esclave, lui était né par le jeu de la chair. Mais celui de la femme libre, il le devait à une promesse de Dieu. Alors comprenons bien ce verset 23. Le premier fils, celui de l'esclave, lui était né par le jeu de la chair. Relisons comment s'est passée cette naissance de Ismaël que Abraham a eue avec sa servante qui s'appelle Agar. Ce n'est même pas sa servante, c'est la servante de sa femme. Alors je vous lis Genèse chapitre 16. Sarai, la femme d'Abraham, ne lui avait pas donné d'enfant. Or, elle avait une servante égyptienne qui s'appelait Agar. Sarai dit à Abraham, à l'époque il s'appelait Abraham, et non pas Abraham. Au sens strict, vous voyez, Ismaël n'est pas le fils d'Abraham, c'est le fils d'Abraham. Alors que celui qui peut comprendre, comprenne. Sarai dit à Abraham, tu le vois bien, Yahvé n'a pas permis que j'enfante. Va donc vers ma servante, j'aurai peut-être un fils par elle. Je vous relis notre passage de l'Épître aux Galates. Le premier fils, celui d'esclave, lui était né par le jeu de la chair. Et c'est Sarah même qui a poussé Abraham dans les bras de sa servante Agar. L'un né de son esclave, il est né le jeu de la chair. Sarah, la femme d'Abraham, ne lui avait pas donné d'enfant. Or, elle avait une servante égyptienne qui s'appelait Agar. C'est Genèse chapitre 16. Je suis maintenant au verset 2. Sarai dit à Abraham, tu le vois, Yahvé n'a pas permis que j'enfante. Va donc vers ma servante, j'aurai peut-être un fils par elle. Abraham écouta Sarai. Cela faisait déjà 10 ans qu'Abraham était installé au pays de Canaan, lorsque Sarai, la femme d'Abraham, prit sa servante Agar l'Égyptienne et la donna à son mari Abraham. Il s'approcha d'Agar et elle fut enceinte. Lui aussi Abraham, il n'a pas discuté longtemps, hein. Il a quand même été très coopérant. Et on voit donc comment Sarah elle-même, la femme d'Abraham, à l'époque c'est Sarai et lui c'est Abraham, hein, pour ceux qui connaissent un peu la Bible, et donc il va donner sa servante, et lui il va s'approcher de sa servante et il va faire un enfant, elle est enceinte. Ça, c'est donc le premier fils, celui de l'esclave, lui était né par le jeu de la chair. Mais celui de la femme libre, la vraie femme, il le devait à une promesse de Dieu. Et ça, c'est Genèse chapitre 17. Et dans Genèse chapitre 17, il est dit, on lit, « Lorsque Abraham avait 99 ans, c'est toujours Abraham, hein, c'est dans Genèse chapitre 17, à partir du verset 5, que son nom va changer. « Lorsque Abraham avait 99 ans, Yahvé lui apparut et lui dit, « Je suis le Dieu de la steppe, marche devant moi et sois fort. J'établirai mon alliance entre moi et toi, je te multiplierai encore et encore. » Abraham se prosterna et Dieu lui parla ainsi. « Voici quelle alliance je fais avec toi. Tu vas devenir le père de nations nombreuses. Aussi ne t'appellera-t-on plus du nom d'Abraham, mais ton nom sera Abraham, car je ferai de toi le père de nombreuses nations. » Pour Ismaël, il s'appelait Abraham. En deux syllabes, Abraham. Pour Isaac, il s'appelle Abraham. C'est pour moi qu'il est voulu, ce qui est écrit dans la Sainte Écriture. Je te rendrai fécond, très fécond. Tu deviendras non pas une, mais des nations, et des rois sortiront de toi. J'établirai mon alliance, une alliance perpétuelle entre moi et toi et ta descendance après toi, de génération en génération. Je serai ton Dieu et celui de ta descendance après toi. Tout ce pays de Canaan, cette terre où tu es nomade, je te le donnerai, et à ta descendance après toi, comme une propriété perpétuelle, et je serai leur Dieu. Je continue à lire avec vous Genèse chapitre 17, je suis au verset 9. Dieu dit à Abraham, pour une fois maintenant il parle non plus à Abraham, il parle à Abraham puisqu'il a changé son nom. Tu garderas mon alliance, toi et ta descendance avec toi, de génération en génération. Voici l'alliance que vous garderez, que j'établis entre moi et toi et ta descendance après toi. Tout mâle parmi vous sera circoncis, vous circoncirez votre chair, votre prépuce, et ce sera le signe de l'alliance entre moi et vous. De génération en génération, tout mâle parmi vous sera circoncis à l'âge de 8 jours. Alors j'en profite pour vous dire que Dieu fait alliance avec les enfants, hein, dans Genèse chapitre 17. Et je ne vois pas pourquoi dans le Nouveau Testament vous refusez le baptême des enfants. Surtout qu'il n'y a aucune référence biblique, je vous dis bien aucune, si vous en trouvez une il faut me dire, il n'y a aucune référence biblique qui refuse le baptême des enfants. Ça n'existe pas dans les Saintes Écritures. C'est pour ça qu'il faut bien lire la Bible. Sinon, au bout d'un moment, on commence à dire des choses bizarres et à croire n'importe quoi. Vous circoncirez votre chair, votre pépus, ce sera le signe de l'alliance entre moi et vous. De génération en génération, tout mâle parmi vous sera circoncis à l'âge de 8 jours. Aussi bien celui qui est né dans la maison que celui qui a été acheté à prix d'argent chez des étrangers qui ne sont pas de ta race. Tu circonciras celui qui est né dans ta maison comme celui qui a été acheté avec ton argent. Mon alliance sera gravée dans votre chair, elle deviendra ainsi une alliance perpétuelle. Celui qui n'aura pas été circoncis, le mâle dont on n'aura pas coupé le prépuce sera retranché de sa parenté, il aura violé mon alliance. Dieu dit à Abraham, tu n'appelleras plus ta femme Saraï, son nom sera désormais Sarah. Non seulement il change le nom d'Abraham en Abraham, mais celui de Saraï en Sarah. Je la bénirai, je te donnerai par elle un fils. Je la bénirai, elle deviendra non pas une, mais des nations, des peuples et des rois sortiront d'elle. Abraham tomba la face contre terre et se mit à rire. Genèse chapitre 17, verset 17. Abraham tomba contre terre et se mit à rire. Il se disait, est-ce qu'un homme âgé de 100 ans peut donner la vie à un fils? Et Sarah, une femme de 90 ans, peut-elle encore enfanter? Abraham dit à Dieu, « Si seulement Ismaël pouvait vivre pour te servir. » Sans arrêt, on voit que malgré les serviteurs que Dieu a choisis, nous avons, nous, beaucoup de mal dans notre tête à pouvoir entrer dans le plan de Dieu. Et Abraham lui a dit, « Je la bénirai, elle deviendra non pas une, mais d'elle, je donnerai un fils par elle. » Et Abraham n'y croit pas. Et il dit que, un fils avec Sarah, c'est pas ça. Fait que Ismaël puisse survivre, vraiment qu'il ne meure pas. Voilà Abraham. Et on est tous petits comme ça, comme Abraham, dans notre foi. C'est ça qui est terrible. Abraham tomba la face contre terre et se mit à rire. Il se disait, est-ce qu'un homme âgé de 100 ans peut donner la vie à un fils? Et Sarah, une femme de 90 ans, peut-elle encore enfanter? Abraham dit à Dieu, si seulement Ismaël pouvait vivre pour te servir. Mais Dieu lui répondit, pas du tout. Sarah, ta femme, t'enfantera un fils et tu lui donneras le nom d'Isaac. J'établirai mon alliance avec lui, une alliance perpétuelle, pour être son Dieu et celui de sa descendance après lui.
Mon âme élève le Seigneur, exulte, car il a fait des merveilles dans ta vie, et t'a sauvé de la boue, et t'a racheté.